Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très très importante série concernant la rédemption. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous arrivons à la douzième étude. Et nous continuons donc de ce que nous avons fait avant. Premièrement et deuxièmement, nous sommes à la troisième partie de cette histoire de rédemption de la captivité de Babylone à la venue de Jésus-Christ. Donc, dixièmement, je ferai ensuite remarquer la délivrance remarquable que Dieu accorda à l'Église et à la nation des Juifs, en grand danger qu'ils étaient d'être entièrement détruites par Haman, ainsi qu'on le voit dans le livre de Esther. Cette suite de dispensations providentielles pour prévenir cette destruction fut très remarquable. Il est donc hors de doute que Esther était née dans ce but-là et pour servir d'instrument dans cette délivrance remarquable. Onzièmement, après cela, le canon des Saintes Écritures s'augmenta des livres de Néhémie. Celui-ci fut écrit par le prophète de ce nom et de Esther. Du reste, peu importe de savoir si ce dernier fut écrit par Néhémie, Mardochée ou par Malachie. Il nous suffit de savoir qu'il est du nombre des livres que les Juifs ont toujours admis dans leur canon, qu'ils le regardaient comme faisant partie des Saintes Écritures du temps de Jésus-Christ et qu'il fut reçu par lui comme tel. Car souvent, comme on pourrait facilement le montrer, Christ, dans ses discours aux Juifs, approuve et confirme évidemment ces livres que, parmi eux, on appelait les Saintes Écritures. Douzièmement, après cela, le canon de l'Ancien Testament a été complété et fermé par Malachie. La manière dont il termine sa prophétie semble impliquer qu'il n'y aurait plus de prophétie ni de révélation à attendre jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Car dans le dernier chapitre, il prophétise la venue de Christ. Mais pour vous, est-il dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la santé sera dans ses rayons. Vous sortirez et vous allez acquérir de l'embonpoint comme de jeunes bœufs que l'on engraisse. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous les plantes de vos pieds au jour que je ferai mon œuvre, a dit l'Éternel des armées. Malachie, chapitre 2, verset 3. Ensuite, nous pouvons lire au verset 4, toujours de Malachie, chapitre 2. Souvenez-vous de la loi de Moïse, la loi de Moïse, mon serviteur, à qui je donnais en Horeb pour tout Israël les statuts ainsi que les jugements. Ce qui signifie, n'oubliez pas ce que vous avez fait et profitez-en, tenez-vous à votre règle écrite et n'attendons pas qu'il y soit fait aucune addition jusqu'à ce que la nuit de l'Ancien Testament prenne fin et que le soleil de justice se soit enfin levé. Alléluia. Treizièmement, bientôt après cela, l'esprit de prophétie disparut jusqu'au temps du Nouveau Testament. C'est ainsi que les lumières de l'Ancien Testament, les étoiles de cette longue nuit, se sont hâtées de s'éclipser à l'approche du soleil de justice qui allait bientôt se lever. Nous avons déjà fait remarquer comment les rois de la maison de David ont prié. Oui, et ils ont pris fin avant la venue du vrai roi et du vrai chef de l'Église. Et comment les nuages de gloire se sont dissipés avant l'approche de Christ, la gloire éclatante du Père. Donc maintenant, l'esprit de prophétie a cessé. C'est pas moi qui le dis, soit que nous croyons ce qui est écrit, ou nous avons nos propres philosophies religieuses. Les jours du grand prophète de Dieu étaient si rapprochés qu'il était temps pour ceux qui en étaient le type de garder le silence. Nous avons ainsi parcouru les siècles dont les écrits de l'Ancien Testament donnent un récit historique. La dernière chose qu'il mentionne comme ayant avancé l'œuvre de la rédemption, c'est la cessation de l'esprit de prophétie. J'en viens donc maintenant à montrer comment l'œuvre de la rédemption s'est poursuivi pendant le reste du temps avant la venue de Christ. Ici, nous n'avons plus le fil de l'histoire biblique pour nous guider, comme dans ce qui a précédé. Mais trois choses nous restent. Les prophéties de l'Ancien Testament, l'histoire profane, et dans le Nouveau Testament, occasionnellement, des renseignements sur des événements qui sont arrivés dans ce temps-là. Quatorzièmement, je mentionnerai encore dans cette époque la destruction de l'Empire de Perse, oui, l'Empire des Perses, et la fondation de celui des Grecs par Alexandre. Cela a eu lieu environ 60 ou 90 ans après les jours dans lesquels Malachie doit avoir prophétisé et environ 330 années avant Jésus-Christ. Ce fut donc la troisième révolution dans cette période, plus grande et plus remarquable que celle qui avait précédé. Elle fut très remarquable quand on pense à la rapidité des conquêtes d'Alexandre et à la grandeur de l'empire qu'il fonda et qui surpasse de beaucoup en étendue tous les précédents. Il est beaucoup question de cet événement dans les prophéties de Daniel. Cet empire est représenté par le troisième royaume d'Airain, dans l'interprétation que Daniel a donnée du songe de Nebuchadnezzar ou de Nebuchadnosor, suivant les versions bibliques, notez Daniel chapitre 2, et dans la vision que Daniel a eue des quatre animaux, il est représenté par la troisième bête qui était semblable à un léopard, qui avait même sur son dos quatre ailes d'oiseaux pour représenter la rapidité de la conquête. Chapitre 7. Il est représenté dans le chapitre 8, j'ai dit Daniel, chapitre 8, par le bouc qui est venu de l'Occident sur le dessus de toute la terre et ne touchant même point à terre pour représenter avec quelle rapidité Alexandre a parcouru le monde. L'ange lui-même déclare expressément que ce bouc signifie le roi de Grèce. Et le bouc velu, c'est le roi de Javan ou Yavan, suivant la prononciation. Et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi, verset 21, c'est-à-dire c'est Alexandre lui-même. Alexandre mourut bientôt après avoir fait la conquête du monde. Son empire ne passa pas à sa postérité, mais quatre de ses principaux capitaines se le partagèrent. Cet empire étant brisé et ayant cédé la place à quatre autres, la nation est donc divisée en quatre, mais elle n'est plus sous son pouvoir, comme on le voit au chapitre 11. L'ange, après avoir annoncé l'empire des Perses, annonce maintenant celui d'Alexandre. Et un roi puissant se lèvera, est-il dit, et dominera avec une grande puissance et fera selon sa volonté. Verset 3. Ensuite, il annonce le partage de son royaume entre ses quatre capitaines. Et sitôt qu'il sera en état, son royaume sera brisé et partagé vers les quatre vents des cieux et ne sera point pour sa race, ni selon la domination avec laquelle il aura dominé, car son royaume sera extirpé et sera donné à d'autres. Outre cela, verset 4, l'un donc de ces quatre capitaines a eu en partage l'Égypte, l'un de ces quatre capitaines a eu en partage la Judée, un autre la Syrie et les pays du Nord. Ils sont donc appelés les rois du Nord et du Sud, selon Daniel chapitre 11. Or, cette fondation de l'empire des Grecs a contribué puissamment à préparer la voie à la venue de Christ et à l'établissement de son royaume, surtout en ce qu'il a fait du grec. Il a fait du grec la langue universelle. C'est important de mentionner cela. Et cette circonstance a été très avantageuse pour la propagation de l'Évangile parmi les nations. Elle s'est faite beaucoup plus aisément que si chacune de ces nations avait eu sa langue distincte, car bien que quelques-uns des premiers prédicateurs de l'Évangile avaient le don des langues, de sorte qu'ils pouvaient parler dans une langue quelconque, eh bien tous n'avaient pas ce don très particulier. De plus, ceux qui le possédaient ne pouvaient pas l'exercer à leur volonté et à leur aise, mais seulement dans certaines circonstances précises, quand l'Esprit Saint de Dieu jugeait bon de les inspirer de cette manière-là. Et les églises dans les différentes parties du monde, comme Jérusalem, Antioche, la Galatie, Corinthe, n'auraient pas pu avoir des communications conservées dans le livre des Actes sans une langue universelle. Or, après l'établissement de l'empire des Grecs, beaucoup de personnes dans tous ces pays-là apprirent très bien le grec et il est devenu un admirable moyen, un moyen de communication entre toutes ces diverses églises qui étaient si éloignées les unes des autres. Ensuite, la circonstance que le grec est devenu la langue commune d'une si grande partie du monde prépara admirablement la voie pour le royaume de Christ, vu que c'était la langue dans laquelle le Nouveau Testament allait d'abord être écrit. Les apôtres ont donc prêché l'Évangile à un grand nombre de nations, et si elles n'avaient pu comprendre la Sainte Bible que dans des traductions en ces diverses langues, eh bien la propagation de l'Évangile aurait été rendue beaucoup plus difficile. Mais le grec étant devenu la langue générale, ils comprirent tous ont compris le Nouveau Testament de Jésus-Christ dans la langue, il faut bien le dire, dans laquelle les apôtres et les évangélistes ont pu décrire tout dans ce temps-là. Et aussitôt qu'il fut écrit par ces auteurs, il fut immédiatement à la portée de tous dans une langue généralement très bien comprise. Maintenant, quinzièmement, je remarquerai de plus qu'on fait la traduction de l'Ancien Testament en grec. Ce que on a appelé en ce temps-là la version des Septante ou la traduction des Septante. On suppose qu'elle fut faite 50 environ, entre 50 et 60 années après la conquête d'Alexandre. C'est donc là la première traduction des Saintes Écritures dont il soit fait mention d'une manière authentique. Le canon de l'Ancien Testament avait été complété par le prophète Malachie dans l'original, et cela environ 120 années avant cette époque-là. Et jusque-là, les Saintes Écritures étaient restées parmi les Juifs parce qu'elles étaient écrites en hébreu et qu'aucune autre nation ne pouvait les comprendre. Mais alors, là, elles furent traduites maintenant en grec, la langue généralement très bien comprise par toutes les nations du monde de ce temps-là. Cette traduction de l'Ancien Testament existe du reste encore et elle est très utilisée. Ce qui semble le plus vraisemblable, c'est que le grec était devenu la langue d'une multitude de Juifs vivant en dehors de la Judée qui étaient nés et avaient été élevés parmi les Grecs. Comme ils ne comprenaient pas l'original hébreu, ils ont fait traduire les Saintes Écritures en grec pour leur usage. Et à partir de ce temps-là, les Juifs, dans tous les pays, excepté la Judée, s'habituaient à se servir de cette traduction au lieu de l'hébreu. Cette traduction des Saintes Écritures dans une langue si généralement connue dans tout le monde de ce temps-là contribua beaucoup à préparer la voie au royaume de Christ. Car les apôtres chargés de prêcher par tout le monde faisaient grand usage des Saintes Écritures de l'Ancien Testament et surtout des prophéties concernant Jésus-Christ. Grâce à cette traduction et à la grande dispersion des Juifs, ils avaient sous la main les Saintes Écritures dans une langue comprise par tous les gentils, c'est-à-dire par tous les non-juifs. Aussi se sont-ils servis principalement de cette traduction dans leurs prédications et dans leurs écrits partout où ils sont allés, comme on le voit par le fait que presque toutes les nombreuses citations de l'Ancien Testament dans leurs écrits sont faites dans les paroles mêmes des Septante, de la version des Septante. Le sens est donc le même que dans l'original hébreu, bien que les mots soient un peu différents. On appelle cela aujourd'hui des synonymes. On s'est servi principalement de cette traduction dans les églises chrétiennes de la plupart des nations du monde, même pendant plusieurs siècles après Jésus-Christ. Seizièmement, remarquons encore la préservation miraculeuse de l'Église. De l'Église quand elle fut menacée et persécutée sous l'empire des Grecs. Ils ont été menacés pour la première fois par Alexandre lui-même, alors qu'il avait assiégé, on peut bien dire, toute la ville de Tyr. Il a fait demander aux Juifs de l'assistance et des provisions pour son armée. Or, par respect pour le serment qu'ils avaient prêté autrefois au roi de Perse, ils ont refusé. Et comme il était un homme très colérique, ça fait penser à un certain leader de la Corée du Nord, conformément à la description de l'Écriture sainte, qui le représente sous l'image carrément d'une bête sauvage. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Eh bien, il a marché contre eux, bien décidé de tous les détruire. Mais voilà. Mais lorsque il a rencontré les prêtres qui sont venus à sa rencontre, dans leurs ornements fabuleux, de leurs ornements sacerdotaux, Dieu a changé son cœur, et cela d'une manière surprenante, comme il a tourné autrefois celui de Ésaü, rappelez-vous, qui avait marché à la rencontre de Jacob pour le tuer, et il les épargna et leur accorda même sa faveur. Après cela, un des rois d'Égypte, successeur d'un des quatre généraux d'Alexandre, a formé le dessein de détruire la nation juive, mais il fut merveilleusement empêché d'exécuter cela par suite de l'interposition de Dieu en leur faveur. Mais leur délivrance la plus remarquable dans cette époque-là fut celle de la cruelle persécution d'Antiochus ou d'Antiochus Épiphane, qui était le roi de Syrie et qui était le successeur d'un autre des quatre généraux d'Alexandre. Les Juifs étaient alors soumis au pouvoir d'Antiochus. Il était irrité contre eux, et comment? Et pendant longtemps, il a fait tous les efforts inimaginables pour en finir avec eux et pour les détruire, du moins ceux d'entre eux qui ne voulaient pas abandonner leur religion et adorer ses idoles. Il a ravagé le pays et il l'a même dépeuplé la ville de Jérusalem. il a profané le temple en établissant des idoles dans quelques-uns de ses compartiments. Il persécuta le peuple avec une cruauté qui semblait ne devoir jamais être satisfaite, de sorte qu'on n'avait jamais vu auparavant de persécution si terrible. Plusieurs détails de cette cruelle persécution sont très touchantes. Elle commença environ 170 années avant Jésus-Christ, et il en est beaucoup question dans les prophéties de Daniel. Notez, s'il vous plaît, Daniel chapitre 8, verset 9, chapitre 8, verset 9 et le verset 25, et ajoutez toujours de Daniel chapitre 11, verset 31 à 38, et dans le Nouveau Testament, notez Hébreux chapitre 11, verset 36 à 38. Antiochus ou Antiochus se proposait de renverser non seulement la religion juive, mais autant qu'il était en lui, d'exterminer carrément la nation tout entière. Il a fait en particulier tous ses efforts pour détruire tous les exemplaires de la loi. Quand on pense combien ils étaient faibles pour résister à un roi si puissant, alors on voit clairement l'intervention de la providence de Dieu dans la non-réalisation de ses terribles desseins. Plusieurs fois, les Juifs ont semblé être sur le penchant de leur ruine. On aurait dit qu'ils allaient être totalement détruits, et plusieurs fois, leurs ennemis se sont crus sûrs et certains de leur succès. Ils sont venus une fois contre le peuple avec une puissante armée dans l'intention de carrément de les tuer tous, excepté les femmes et les enfants qu'ils se proposaient de vendre comme esclaves. Alors ils étaient si sûrs de leur succès et les autres comptaient si bien faire les achats à bon marché que plus de 1000 marchands sont venus avec l'armée portant tout l'argent nécessaire pour acheter les esclaves qui seraient ensuite vendus. Mais Dieu suscita et assista Judas et ses successeurs, les Maccabées. Donc, on parle ici des Maccabées, qui avaient une poignée d'hommes seulement, une poignée d'hommes qui ont vaincu les ennemis à plusieurs reprises et qui ont délivré le peuple. Cela aussi avait été prédit par le prophète Daniel. Parlant de la persécution d'Antiochus, il dit du reste, dans Daniel chapitre 11, verset 32, « Et il fera pécher par flatterie tous ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. » Daniel chapitre 11, verset 32. Cela fait penser à un certain leader d'une puissante religion d'aujourd'hui qui parle par flatterie. Ensuite, Dieu a fait périr cet Antiochus, et cela d'une manière épouvantable, par suite d'une affreuse maladie, au milieu de terribles tourments, de tourments corporels et même d'angoisse de l'esprit. Cela avait été du reste annoncé par Daniel en ces mots, mais il viendra à sa fin et personne ne lui donnera du secours. Daniel chapitre 11, verset 45. Du reste, après sa mort, il y a eu de nouveaux efforts qui ont été tentés pour détruire l'Église, mais Dieu les réduisait tous à néant. Maintenant, 17e. Ensuite est venue la destruction de l'empire des Grecs et l'établissement de celui des Romains. Ça change. Et bien qu'il s'établit graduellement et avec plus de lenteur que celui des Grecs, il le dépassa pourtant de beaucoup. Ce fut donc l'empire le plus grand et le plus étendu qu'il y a eu jamais. Aussi le désigne-t-on en général par ces mots. Le monde entier a connu toutes ces légions terribles. Or il arriva en ces jours-là qu'un édit a été publié de la part de César Auguste, portant que tout le monde fut enregistré. Saint Luc chapitre 2 verset 1, c'est-à-dire tout l'Empire romain. Et là, il est parlé de cet empire comme étant le plus puissant et le plus grand des quatre. Puis, il y aura un quatrième royaume, est-il dit, fort comme du fer, parce que le fer brise et met en pièces toutes choses, car comme le fer met en pièces toutes ces choses, ainsi il brisera et mettra tout en pièces. Notez Daniel chapitre 2 verset 40, chapitre 7 de Daniel, verset 7 et verset 19 et le verset 23. Je répète pour que vous puissiez le noter, Daniel chapitre 2 verset 40, Daniel chapitre 7 verset 7, 19 et 23. Ce fut donc entre les années 60 et 70 avant Jésus-Christ que les Romains ont fait pour la première fois la conquête de toute la Judée et se sont emparés. Bientôt après, l'Empire romain a acquis son plus grand développement et le monde a continué de lui être soumis jusqu'à la venue de Jésus-Christ et pendant plusieurs siècles après. Le fait que les nations étaient unies sous une seule monarchie quand Jésus-Christ est venu et que les apôtres sont partis pour prêcher l'Évangile prépara singulièrement la voie pour la propagation de l'Évangile et pour l'établissement du royaume de Christ dans le monde. Comme le monde entier était soumis à un seul gouvernement, les communications sont devenues générales et la propagation de l'Évangile a pu avoir lieu promptement. On raconte des difficultés sans nombre quand on voyage dans des pays qui sont soumis à des gouvernements différents, tandis que ce n'est pas du tout la même chose quand on parcourt les diverses parties du même royaume, les diverses provinces appartenant ainsi au même prince. Ainsi, la circonstance que le monde entier était sous un seul gouvernement, celui de Rome, cela a donc facilité les voyages des apôtres et ainsi aussi la propagation de l'Évangile. 18e, à peu près vers ce temps-là, la science et la philosophie ont atteint à leur plus haut degré de développement dans le monde païen. Presque tous les grands philosophes païens ont vécu après la captivité de Babylone, presque tous les sages de la Grèce et de Rome ont fleuri à cette époque-là. Ces philosophes, en général, se donnaient comme occupés à rechercher en quoi consiste le souverain bien de l'homme et comment on peut l'obtenir. Ils semblaient s'occuper très sérieusement de cette recherche, comme aujourd'hui du reste. Ils ont écrit à ce sujet des multitudes de livres, dont plusieurs nous sont parvenus, mais ils étaient très divisés entre eux, car on a compté plusieurs centaines d'opinions différentes qu'ils professaient à ce sujet-là. Et c'est ainsi qu'ils se sont donnés inutilement de la peine, marchant dans l'obscurité, faute d'avoir l'Évangile pour les guider. Dieu, il s'est plu à permettre aux hommes de faire tout leur possible au moyen de la sagesse humaine, comme il le fait aujourd'hui, et d'essayer toutes les ressources de leur intelligence pour trouver le bonheur avant la venue de la véritable lumière pour éclairer le monde. Dieu a permis pendant 600 années à ces grands philosophes d'essayer ce qu'ils pourraient faire, et les faits prouvent exactement que tout ce dont ils étaient capables était hélas en vain. Le monde n'est pas devenu plus sage, ni meilleur, ni plus heureux sous leur direction, mais bien au contraire, sa folie, sa méchanceté et sa misère sont allées en augmentant. Il permit tout cela pour qu'on puisse voir ce que la raison et la philosophie pouvaient faire dans leurs plus beaux jours, et qu'on a pu sentir ainsi mieux le besoin d'un maître divin. Dieu s'est donc plu à rendre folle carrément la sagesse de ce monde-là, à montrer aux hommes la folie de leur sagesse par les doctrines de son évangile, pour toute leur philosophie qui n'avait pas pu être découverte comme ils ont voulu. Notez 1 Corinthiens chapitre 1, versets 19 à 21. Et après avoir montré la vanité de la science humaine, sans l'Évangile, Dieu a jugé bon de l'utiliser dans l'intérêt du royaume de Christ comme une servante de la révélation. Nous avons une preuve de ce fait dans l'apôtre Paul, qui était renommé pour son grand savoir. Notez Actes, chapitre 26, verset 24. L'apôtre Paul était un érudit, non seulement dans la science des Juifs, mais aussi dans celle des philosophes. Il s'en est servi du reste dans l'intérêt de l'Évangile. Par exemple, quand il a disputé avec les philosophes à Athènes, Actes chapitre 17, verset 22. Donc, grâce à toutes ces connaissances, l'apôtre Paul sait, dans ses discours, comment il peut s'adresser aux hommes instruits, car il a lu tous leurs écrits et il est cité comme étant en connaissance de tous leurs poètes. Denis, un des philosophes de ce temps-là, fut du reste converti et est devenu, par la suite, un instrument très efficace pour la propagation de l'Évangile, et il y en a eu beaucoup dans ce temps-là, et plus tard, qui, eux, par l'usage qu'ils ont fait de leur science et de leur connaissance, tout dans l'intérêt du royaume de Jésus-Christ, cela a été très utile en ce temps-là. Nous arrivons maintenant à 19e. Eh bien, nous arrivons à, on peut dire, à cette partie de la 19e partie, et peu de temps avant la naissance de Jésus-Christ est-il dit que l'Empire romain est parvenu au fait de toute sa gloire et a pu proclamer une paix générale. César Auguste, qui était le premier empereur romain, commença maintenant à régner comme empereur du monde, environ 24 ans avant Jésus-Christ. Jusque-là, l'Empire romain avait été pendant très longtemps une république sous le gouvernement du Sénat, mais alors il est devenu une monarchie absolue. Ce personnage fut le premier et le plus grand des empereurs romains. Il régna au milieu de la plus grande gloire. C'est donc ainsi que la puissance du monde païen, qui était le royaume visible de Satan, est parvenu à son plus haut point après s'être toujours fortifié de plus en plus depuis les jours de Salomon, environ 1000 ans avant. Alors le monde païen a atteint le plus haut point de sa gloire sous le rapport de la force, sous le rapport de la richesse, et sans oublier la science de ce temps-là. Dieu a fait tout pour préparer la voie à la venue de Jésus-Christ. Deux choses dans lesquelles il a choisi une méthode contraire à celle que la sagesse humaine aurait préférée. Il a abaissé et affaibli son peuple visible, et il a élevé extrêmement les païens qui sont ses ennemis, afin de rendre le triomphe de la croix de Christ d'autant plus éclatant. Avec quelques hommes extrêmement faibles, il a défié ses ennemis au plus fort de leur gloire. Et voilà donc comment Christ, par sa croix, a pu triompher des principautés et de toutes les puissances de ce temps-là. César Auguste avait été plusieurs années à établir son empire et à soumettre ses ennemis jusqu'à l'année de la naissance de Christ. Alors tous ses ennemis étant soumis, sa domination sur le monde entier semblait être entourée de la plus grande gloire possible. La paix régnait partout. Aussi, en signe de ce fait, les Romains ont fermé le temple de Janus, qui était un symbole pour indiquer que l'Empire entier était en paix. Et cette paix universelle, qui commença l'année même de la naissance de Jésus-Christ, elle dura 12 années jusqu'à l'année où Jésus disputa avec les docteurs dans le temple. Chers amis, vous avez compris que cette étude est de la plus haute importance. Aussi, nous terminons pour aujourd'hui, et voilà donc comment le monde, après avoir été en quelque sorte dans un état continuel de convulsion pendant tellement de siècles, on aurait dit les 4 vents des cieux qui ont été déchaînés sur l'océan furieux, ce qui avait produit ces 4 grandes monarchies. Tout était parvenu au plus haut point de gloire sous la 4e puissance et tout cela jouissait d'une paix relative. Tout était donc prêt à présent pour la naissance de Jésus-Christ. Cette paix universelle, si remarquable, après tellement de siècles de troubles et de guerres, était une préparation convenable pour introduire dans le monde le prince de la paix. Chers amis, j'ai donc parcouru la première grande période de toute cette grande époque, comprise entre la chute de l'homme et la fin du monde, et j'ai montré la vérité de cette première proposition depuis la chute de l'homme jusqu'à l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu a fait les choses qui préparent et qui annoncent sa venue. Chers amis, nous continuerons demain, Dieu voulant, l'étude numéro 13 et vous constaterez, parce que nous devons être très sérieux, que tout ce qui vous est annoncé est absolument vrai, et même pas seulement vrai, mais prouvable. Vous pouvez le vérifier à tout moment. Maintenant, chers amis, nous allons prier, et avant, je voudrais vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné par l'Esprit Saint pour vous réconforter et pour vous encourager. Écoutez bien. Le Seigneur est là et il attend. Lui, votre Seigneur, il est prêt à répondre à votre appel. Il est au milieu de vous comme celui qui sert. Il est doux et humble. Il est prêt à être mis à contribution et à se rendre à votre appel. C'est qu'il n'y a pas de grandeur comparable à la grandeur de celui qui est lui Jésus-Christ. Qui lui, Jésus-Christ, peut commander à tout l'univers. Il se tient à la disposition de ses enfants encore aujourd'hui. Associez-le donc à tout ce qui vous concerne, et avec le temps, vous trouverez une joie indicible à vous entretenir ensemble de lui et à gravir d'un même les sommets de la vie, mais soyez toujours modeste, soyez doux et humble de cœur. Surtout, sachez bien qu'il s'agit non de se faire une situation, mais de servir Jésus-Christ, votre Seigneur bien-aimés. Maintenant, nous allons prier et j'essayerai de vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé. Je crois que c'était en 1972 que j'ai fait ces enregistrements avec un enregistreur à bande qui s'appelait le Revox. Il y avait aussi le Nagra de Koudelski. Mais prions tout d'abord. Seigneur, oui, daigne-nous accorder à cette heure de pouvoir élever nos âmes à toi avec recueillement et avec un respect sincère. Nous te supplions d'avoir pitié de nous, de déciler nos yeux, afin que nous puissions regarder aux merveilles de ta loi, de donner à nos âmes cette vue intérieure qui nous fait découvrir ce que nous sommes devant toi et que Jésus-Christ, notre Sauveur, a fait pour nous, indignes et faibles créatures que nous sommes. Que nous puissions nous écrier un jour que j'étais aveugle, et maintenant je vois. Nous sommes véritablement entourés de ténèbres. Nous sommes aveugles pour nos intérêts éternels, aveugles pour nos défauts, pour les pièges du monde, aveugles pour les bienfaits innombrables de Dieu et pour les vérités de son évangile. Ô Seigneur, aie pitié de nous, et daigne par ta puissance nous faire passer des ténèbres à la lumière. Nous te supplions non seulement de nous accorder cette grâce divine, mais de l'étendre à nos parents, à nos amis, pour lesquels nous te prions. Bénis aussi les malades, les affligés, et soutiens tous ceux qui souffrent, et ne repousse pas, ô Dieu de miséricorde, l'humble prière que nous t'offrons aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et comme vous le savez, Dieu vous aime, vraiment. Et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer intensément, avec tout mon amour. Et je vous embrasse maintenant, solennellement, avec tout mon amour. Et soyez bénis. Et surtout, n'oubliez pas de prier les uns pour les autres. C'est très important. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette très importante série. Au revoir. Et maintenant, si possible, quelques chants de ce lointain passé.
God be with you till we meet again. By His counsels guide upon you. With His sheep securely fold you. God be with you till we protect me, hide you. just couldn't be close, though we tried. We both reached for heavens, but ours weren't the same. That's what happens when two worlds collide. Your world was made up of things sweet and good. My world could never fit in. Wish it could. Two hearts lie in shambles, and oh, how they cry. That's what happens when two worlds collide. That's what happens when two worlds collide. Are you thinking that I wasn't meant for you? Could it be you believe that I've been untrue? Listen, sweetheart, this just cannot be, for you're the only good thing that's happened to me. We have our ups and downs, like all lovers do. But you know in your heart that I worship you. So don't ever think of setting me free, for you're the only good thing that's happened to me. We have our ups and downs, like all lovers do. But you know in your heart that I worship you. So don't ever think of setting me free, for you're the only good thing that's happened to me.
Too blind to see, too blind. time to see
what's been happening to me.
Happening to me.
Every road has a bend.
Road has a bend.
Will I be sweetheart or friend?
Sweetheart or friend.
Will the sweet thing what's been happening to me?
Happening to me.
Every road has a bend.
Road has a bend.
Will I be sweetheart or friend?
Sweetheart or friend.
Will the sweet things you do be for somebody new? Tell me what to do. They ask me if I'm really happy now. I say, sure, I never loved her anyhow. But inside I long for you and the way it used to be. I look around, there's a heartache following me. I always say that I'm really glad you're gone. I even act like I never cared at all. But your memory lingers on and I'm really free. I look around and there's a heartache following me. I pawned my ring and everything that tied me to the past. I say I never loved her, never meant for it to last. But I know it's just a game, and the loser's always me. I look around, and there's a heartache following me.